Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International, ici à Paris, pour vous parler de football, pour vous parler aussi de Ligue des Champions, parce que nous sommes à J-2 de la finale, une finale PSG-Inter Milan.
Le PSG en finale, personnellement, ce n'est pas une surprise. Je les connais, ils ont un très grand entraîneur, des très grands joueurs. Ils ont une philosophie de jeu très claire et ils ont prouvé que c'est une des meilleures équipes d'Europe aujourd'hui.
Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter, a bien étudié l'adversaire de cette finale qui aimante les regards des passionnés. Aujourd'hui, focus sur ces Nerazzurri. L'Italie se passionne-t-elle aussi pour ce match, pour l'Inter qui disputera sa deuxième finale de Ligue des Champions en 2 ans après un sacré parcours? Quel est le style de l'équipe de Simone Inzaghi? Quels sont les hommes de son groupe, plutôt joueurs d'expérience que les stars? L'Inter Milan est-il devenu le club de football qui porte haut les couleurs de l'Italie? Toutes ces questions, nous les poserons, nous essaierons aussi à des réponses et Matteo Cioffi sera en direct de Milan. Les Blues, vainqueurs de la Ligue européenne, mais la Ligue Conférence. Ils ont hier soir remporté 4-1 la finale face au Betis Séville. Et leur armoire de trophées est la seule à renfermer 4 coupes, une par compétition européenne, le Grand Chelem. Cette victoire, un tremplin peut-être pour Chelsea et une suprématie anglaise qui se renforce. Eh bien, nous en parlerons, n'est-ce pas, Salim Bongali? Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. J'aime bien quand vous parlez de suprématie anglaise.
Ah oui, je sais que c'est un mot qui peut vous toucher. Vous qui serez à Munich par ailleurs en fin de semaine, c'est
j'ai
ça?
J'ai cette chance, oui, absolument. Hein, oui,
vous partez en week-end en Bavière.
C'est ça, voilà.
Par
exactement.
Hasard.
Par hasard, il y avait plein de week-ends possibles. Non, moi je vais en Bavière, effectivement.
Mm-hmm. Bon, eh ben, écoutez, on vous souhaite déjà le meilleur pour cette finale et que le meilleur gagne. Hein.
Absolument.
Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour Adi, bonjour à tous.
Alors, contre toute attente, Chérif met un maillot, mais sud-américain, comme ça c'est la neutralité absolue.
Et voilà.
Du rouge et du noir.
Et voilà.
Ça fait un peu milanais en fait.
Mais c'est pas l'idée.
Ça veut dire qu'il est pour le PSG en fait. Donc parce qu'il est contre l'Inter, il est pour le PSG, voilà. On a compris. On a compris le code.
Tu verras.
Il y a un peu de rouge aussi pour le PSG. Bonjour Manu Terradios. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bonjour à tous. Je crois qu'on pourrait demander à Luis Enrique qu'est-ce qu'il pense de la suprématie entre guillemets anglaise.
Et comment va le Real sinon, Manu? Le Real Madrid va bien?
Très bien. On reconstruit.
Ah,
déjà on pense à l'avenir.
Ah, ça c'est.
Brique par brique, c'est reparti. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Noi siamo l'Inter, nerazzurro il cielo, il mondo intero. Noi siamo l'Inter, tutti insieme urliamo, Inter Milano.
L'heure du coup d'envoi approche, l'heure de vérité aussi pour l'épilogue d'une haletante Ligue des Champions, nouvelle formule PSG-Inter Milan donc, et l'excitation qui monte dans les villes des deux clubs aussi. En France, le débat a été lancé. Les Français seront-ils tous derrière le Paris Saint-Germain? Zinedine Zidane, le Marseillais qui n'a jamais joué à l'OM, mais qui a le cœur marseillais, a déclaré, bien sûr qu'on va regarder, même moi, je suis Marseillais, mais il va falloir que l'équipe française gagne. Basile Boli, autre symbole marseillais, ô combien le héros de 1993 de cette unique Ligue des Champions remportée par un club français, a déclaré « Je vais regarder la finale comme tout le monde, mon cœur restera bleu et blanc, mais je suis derrière le Paris Saint-Germain. Représenter la France, c'est quelque chose d'important pour moi. » Donc même les Marseillais, ou certains Marseillais, s'essayent à être supporters du Paris Saint-Germain. On vise plutôt la corde nationale en évitant le cœur, on va dire. Alors du côté de l'Italie, en est-il de même? Eh bien, c'est une question qu'on vous pose. Bonjour Matteo Cioffi.
Bonjour, bonjour Annie Gasnier, bonjour tout le monde.
Bonjour Matteo. Salut Matteo. Ciao.
Matteo, est-ce que toute l'Italie est derrière l'Internazionale? Alors, avant que vous ne répondiez, eh bien, il y a eu une réponse aussi d'un joueur ô combien emblématique, parce qu'en plus, Il a joué au Parc des Princes. C'est un certain Gigi Buffone.
Ce sont des questions inutiles que je déteste entendre. En général, je soutiens toujours l'équipe qui mérite de gagner. Et si une équipe italienne gagne, c'est très bien. Même quand j'étais joueur, je n'étais presque jamais contre les autres, parce que c'est une attitude qui me dérange vraiment et je trouve que c'est petit.
Bon, il n'aime pas qu'on lui pose la question, mais il joue sur la fibre nationale, on va dire. Donc, il est derrière l'Inter, Matteo, c'est aussi simple que ça?
Bon, il a été très ambigu dans cette interview. Je peux dire qu'une chose, la rivalité dans le football italien, mais je pense un peu partout, est historiquement très forte. Il est donc inimaginable de voir les supporters, par exemple, du Milan ou de la Juve soutenir samedi soir l'Inter. À Milan, en plus, ces jours-ci, j'ai vu pas mal de gens se promener avec un t-shirt du PSG comme par hasard. Chose qui m'étonne absolument pas, car être tifoso signifie être pour, mais souvent aussi contre.
Eh oui. Youri Djorkaeff, champion du monde 98, qui a joué à Paris en remportant la Coupe de l'UEFA, hein, puis à l'Inter, et il a remporté là aussi beaucoup de trophées. Lui, il a botté en touche. Dans le journal L'Équipe aujourd'hui, il dit « Écoutez, c'est comme me demander de choisir entre mes fils, donc je ne sais pas choisir. » Ça vous étonne? En Angleterre, j'imagine que tous ne seraient pas derrière... hier, tout le monde n'était pas derrière Chelsea, ou la semaine dernière, tout le monde n'était pas derrière...
Alors,
là, il y avait deux clubs anglais.
Vous confirme. Effectivement, hier, à peu près tout le monde était contre Chelsea en Angleterre. En plus, le Chelsea actuel est tellement mal perçu. La semaine dernière, vous prenez le très bon exemple, United et Tottenham sont très mal perçus, encore plus United. Donc non, il n'y avait pas grand monde qui était pour l'un ou pour l'autre aussi. Et ce n'est pas une blague, je vous jure que c'est vrai. Il y a 2 ans, lorsque West Ham est allé en finale, parce que West Ham a, entre guillemets, une meilleure image, parce que plus club plus petit que les Chelsea, City, etc.
Moins prétentieux, on va dire.
Donc avait un peu plus de supporters, ou en tout cas avait moins d'antipathie, on va dire comme ça. Juste, permettez-moi un petit mot sur ces mots que vous avez évoqués, Boli qui prend position, Zidane et d'autres. Encore une fois que...
Parce qu'on leur pose la question aussi.
D'une part,
hein,
vous avez absolument raison de préciser, vous avez pleinement raison. Encore une fois, chacun a la liberté d'avoir son opinion, ça c'est un fait. Que Zidane dit ça, ça me choque pas. Et on a entendu Robert Pires aussi qui a marqué un petit peu de son empreinte rapide de Marseille. Lui a dit non, moi je serais quand même pour l'Inter parce que je peux pas être pour le PSG. C'est vrai que juste Basile Boli quand même, malgré tout, même si chacun peut avoir son opinion, c'est une évidence. Basile Boli c'est quand même celui qui marque peut-être le plus l'histoire de l'OM avec la Ligue des Champions. Et que lui se prononce, on a envie de dire, mais botte en touche intelligemment. Évidemment que le PSG ça joue bien, mais vous savez bien, je suis quand même un peu Marseille, c'est compliqué pour moi de dire que je suis pour le PSG. À limite qu'il botte en touche, mais pas qu'il dise comme ça, je vais soutenir le PSG, c'est trop pour un supporter.
Zidane est plus rusé.
Est-ce que Dimeco a soutenu le PSG?
Non, mais justement.
Mais Zidane est un peu plus rusé, hein, parce qu'il dit...
Il dit l'autre club,
voilà,
le club français.
L'équipe française.
Bien sûr.
Il se risque pas.
Bien futur sélectionneur.
Lui, il est obligé. Lui, c'est de la diplomatie, à la limite. Mais Basile Boli, il a tellement marqué Marseille, c'est pas possible qu'il se positionne.
Buffon aussi, c'est de la diplomatie, parce que lui, il est dans le staff de l'Église
italienne. Vous avez raison.
Non, mais c'est évident.
Ouais. Chérie, vous êtes donc derrière le Paris Saint-Germain?
Ah oui, non, mais attendez, moi à la base je soutiens les clubs français, et si je les allume toutes les semaines, en milieu de semaine depuis des années, c'est parce que c'est de l'amour déçu, c'est de la révolte, je vois encore la Coupe des Confédérations, comment Marseille est passée à côté de cette compétition. S'il y a vraiment de la colère de ma part, c'est parce que je me dis que bon, c'est pas possible, les clubs français devraient performer. Donc si Paris rachète un peu, 70 ans d'histoire de Coupe d'Europe... j'en serais très fort. Après, j'ai un petit faible pour l'Inter, mais c'est pas que je suis supporter, c'est que c'est une équipe que je suis particulièrement depuis 5 ans, mais que le meilleur gagne. Et moi, je trouve que la plus belle équipe, les deux plus belles équipes cette saison, avec l'Inter quand même un peu, c'est le Barça et c'est le PSG. Donc au bout d'un moment, il y a une logique sportive qui s'impose.
Alors, pas le Real hein, cette saison, Manu. Et vous, en tant qu'Espagnol vivant en France depuis si longtemps, vous êtes derrière qui?
Ça fait 4 ans, ça c'est la 4e saison que je suis en Pelac tout du PSG pour des médias en Espagne aussi. Donc forcément, il y a une relation. Surtout cette saison avec Luis Enrique, j'ai eu même la possibilité de lui poser quelques questions lors des conférences de presse et il y a des réponses qui m'ont beaucoup plu. Donc, message qu'il lançait toujours, en fait, je suis parvenu vraiment à croire que c'est la réalité, qu'il ne les fait pas pour les caméras. Donc, à un moment donné, j'ai préféré voir les PSG, oui. Et après, j'ai un coup de fil avec une radio italienne, je dirais, sono interista. non, mais blague à côté. C'est vrai que ce n'est pas la même sensation que quand c'est ton équipe, mais...
Et est-ce qu'il y a une effervescence en Espagne aussi autour de la finale? On attend, on en parle, ça fait la une des journaux, au moins sportifs?
Non,
pas
oui,
tant que ça.
On en parle évidemment, ouais. Mais tu vois les médias de Madrid qui maintenant font focus sur la reconstruction de Madrid, Xabi Alonso, etc. Ben, mais après, je t'ai dit un truc, c'est clair, c'est les supporters du Real qui soutient Inter pour éviter toute cette histoire des vous avez signé Mbappé, mais nous on gagne, etc. Mais ça se suit, mais évidemment, c'est très particulier. Je crois que l'appartenance à ton club, la sensation d'appartenance, ou le sentiment plutôt d'appartenance à ton club, ça n'a rien à voir avec l'équipe nationale. Donc j'ai du mal penser que les supporters d'une autre club, surtout un grand club, vont soutenir un rival.
En tout cas, quand on connaît ce que veut dire la culture club, hein, et que ce soit en Angleterre, en Amérique du Sud notamment.
Le clubisme. Et tout
ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand même? C'est que la France n'en a gagné qu'une seule depuis 75 ans. Je parlais avec Sofiane qui vous tiendra compagnie samedi dans Mondial Sport et qui me dit en 75 ans, on a quand même disputé 15 finales. Mmh. On en a remporté qu'une. Bon, alors, s'il y en a une deuxième qui vient en France, ça sera un peu bien pour l'honneur du football français, on va dire. Mathéo, une question encore autour de l'ambiance. Est-ce qu'on prépare aussi beaucoup la victoire à Milan? Est-ce qu'on la prépare autant qu'à Paris? Parce qu'à Paris, on sait que la Tour Eiffel va porter les couleurs du Paris Saint-Germain, qu'elle va clignoter à chaque but. Ça veut dire qu'ils en attendent beaucoup.
Et même
beaucoup
d'envois. Hein. Lorsque les joueurs vont entrer sur la pelouse, quand ils vont entrer sur la pelouse, la Tour Eiffel va clignoter en
bleu
blanc rouge.
Tout Paris sera au courant que les joueurs se rendent sur la pelouse. Il y aura la remontée des Champs-Élysées qui est déjà prévue pour les Parisiens vainqueurs, bien sûr, puisque, bon, enfin, s'ils ont gagné, mais en tout cas, la remontée est
prévue. Ce ne sera pas Saint-Etienne 76, quoi.
Est-ce que eux, ils avaient descendu?
C'est ça.
Est-ce que Milan aussi se prépare déjà à des festivités ou est-ce qu'on est plus discret?
Alors avant de répondre, Annie, je voulais vous demander à mon tour quelque chose. Pourquoi vous avez parlé de Basile Boli? Déjà, les choses
parce
vont mal du côté de l'AC Milan. En plus, vous me rappelez là, Basile Boli, la seule victoire d'une équipe française. Voilà. Mais allez, on laisse tomber.
C'était sur Milan AC,
on continue.
Hein, disons-le à
alors,
nos auditeurs.
En ce moment, à Milan... Donc il n'y a pas d'événement sportif important, mais même si on avait un, quelqu'un comme Simone Inzaghi ordonnerait à ses joueurs de rester bien concentrés, de préférence avec leur famille, de continuer à s'entraîner à fond sur le terrain. Et si après quelqu'un veut suivre le tennis Yannick Sinner, il peut le faire chez soi, devant son poste de télé, bien logé sur le canapé. Et allez Yannick, et aussi Jasmine Paolini.
Mais pour ce qui est des festivités, il y a déjà des festivités qui sont en préparation.
Alors, il y aura un grand écran à l'intérieur du stade de San Siro. On a déjà vendu quelque chose comme 30 000 tickets. On prévoit plus ou moins 50 000 personnes qui iront suivre le match directement au stade. Et il y aura aussi, dans quelques places de Milan, là aussi des écrans où les supporters de l'Inter pourront leur tour suivre la finale.
Mais on ne parle pas
donc,
de festivités encore.
Le clou, le lieu qui fera, où il y aura plus de gens, ce sera certainement San Siro.
Mais la question, c'était sur les festivités. Est-ce qu'on prépare déjà des festivités?
Non, mais on ne le fait jamais
en Italie.
On
ne le dit pas, c'est ça.
En fait, on n'organise jamais rien avant parce que...
Ici, on connaît déjà
on
les soirées.
Seulement les doigts. Puis, si les choses vont bien entendu, ça va être
comme
une
2000.
Fête. Regardez ce qui s'est passé à Naples. Ils ont organisé en quelques jours seulement la grande fête que vous avez vue peut-être à la télé, qui était, à mon avis, extraordinaire avec cette couleur bleue dans toute la ville. C'était bleu. Mais ils n'avaient rien organisé avant parce que les Napolitains surtout... N'osez pas parler de titre final.
Absolument. En tout cas, donc plus discret du côté de Milan. Et on sait que les interistes donc, sont sérieux. Alors que nous, on voit quand même pas mal de Parisiens à Roland-Garros. Hein, ces heures-ci, je pense que la petite balle jaune...
Si ça avait été un Masters 1000 à Rome, ou à Milan, pardon, il n'y en a pas à Milan en l'occurrence, peut-être qu'il y aurait eu des déplacements de certains joueurs ou caisses. Là, à Paris, forcément, c'est juste à côté aussi. Donc ils peuvent se le permettre.
En tout cas, les Nerazzurri sont donc les derniers vainqueurs italiens de la Ligue des Champions. champion. C'était en 2010 contre le Bayern Munich avec José Mourinho, Samuel Eto'o et tant d'autres joueurs stars sur le terrain. Et c'était la troisième Ligue des champions de ce club. Là, ils disputent leur troisième finale donc depuis 2010 avec une gagnée. Sont-ils, Matteo, est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'ils sont le dernier rempart, le dernier bastion, le dernier symbole aussi peut-être de l'Italie face aux autres clubs des autres championnats, l'Inter Milan?
Moi, j'espère pas que ce soit le dernier, mais peut-être le premier. La Renaissance peut-être partira par là. C'est vrai que l'Inter, ouais, dans ces 10 dernières années, certainement l'équipe qui a le plus représenté la Renaissance, la rinascita, comme on dit en italien, du football italien en Europe, de finale en 3 ans sur les signes d'une valeur indiscutable. Mais il est également vrai qu'il y a 2 ans, Milan était en demi-finale et Naples en quart de finale de Ligue des Champions. De plus, n'oublions pas que la Juventus a été très proche de remporter la Ligue des Champions à 2 reprises en 2015 et en 2017. Si l'on considère ensuite les autres compétitions européennes, certes tellement moins importante que la Ligue des Champions, mais elle n'est pas discréditée. L'Italie a remporté la saison dernière la Ligue Europa avec l'Atalanta, et il y a 3 ans la Ligue Conférence avec la Roma. Toujours la Roma a perdu la finale de la Ligue Europa en 2023, et la Fiorentina, pour 2 fois d'affilée, 2023 et 2024, n'a pas réussi à s'adjuger la Ligue Conférence tout en étant arrivée jusqu'au bout de cette compétition. Donc bref, l'Italie c'est en ce moment l'Inter. Pas de doute à ce propos, mais d'autres clubs ont laissé des traces importantes au niveau international.
Shérif, est-ce que l'Inter est le symbole alors de tous ces clubs italiens qui effectivement disputent les autres coupes européennes, mais quand même eux très présents depuis 2010 en tout cas?
Oui, c'est... Après 2010, il y a eu quand même la Juve qui fait deux finales, comme la paire avec Matteo. Alors, Matteo situe
contre le Real, d'ailleurs.
L'Inter, ces 10 dernières saisons. Moi, je dirais plutôt ces 5 dernières saisons. 5 dernières saisons, pour moi, ils font partie du Gotha européen. Oui. Je pense que ça a été la locomotive du football de club italien. Ça a commencé avec Antonio Conte. Inzaghi a repris le contrôle. Et c'est devenu... l'épouvantail absolu, l'équipe que personne ne veut jouer. Et comment dire, c'est un peu le cas du PSG. À partir du moment où vous êtes 4e ou 5e club le meilleur en Europe, vous pesez. Et oui, en effet, l'Inter représente un peu le renouveau de la Serie A. On a eu très peur quand on a vu l'équipe d'Italie rater les Coupes du Monde, l'Euro. Et finalement, l'Inter a bien rappelé qu'il fallait compter sur la Serie A, sur le football de club italien, qui a emmené derrière lui Napoli, qui a fait un quart de finale, l'Atalanta qui gagne l'Europa League. Mais tout ça, je pense que c'est dû à l'Inter, qui a su se renouveler. Il ne faut jamais oublier que dans l'Inter, il y a pas mal de joueurs italiens.
Exactement.
Ce n'est pas le cas de toutes les autres équipes.
Pour compléter ton propos, c'est vrai que l'Inter, malgré tout, en Europe, parce qu'en Italie, en Serie A, il y a Naples aussi qui a gagné le dernier championnat, évidemment. Mais c'est vrai que l'Inter paraît quand même en Europe tellement au-dessus des autres clubs italiens. Alors oui, Naples a réussi des performances cette année, quand même un quart de finale. L'Atalanta, évidemment, l'année dernière, l'Europa League.
Ils ont été deux fois champions et là, ils sont à un point d'être champions encore d'Italie.
C'est vrai que l'Inter a l'air tellement au-dessus, avec Inzaghi notamment à sa tête. Inzaghi, c'est vraiment un élément clé aussi.
On va en parler d'Inzaghi après.
C'est vrai qu'il a été tellement important avec cette équipe, mais c'est vrai que l'Inter, au final, paraît tellement au-dessus, paraît être au niveau des Barça, et encore même au-dessus d'ailleurs d'un Barça. Parce que Barça, je rappelle, la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était en 2015, typiquement. Donc l'Inter est au-dessus du Barça. Il n'y a peut-être que le Real et Liverpool, entre eux, dans les palmarès des dernières années, qui est au-dessus de l'Inter
européen.
Oui, il y a. C'est ce que je voulais dire.
Je pense qu'il y a une chose fondamentale sur l'Inter. Qu'est-ce qui fait que l'Inter soutient la comparaison avec le reste de l'Europe? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Serie A, pendant très longtemps, on est resté sur un rythme lent, des faux rythmes. C'était la Juventus, ils gagnaient chaque année le championnat et tout, mais qui nous emballait pas.
Ils en ont enchaîné 9.
Voilà. Et l'Inter, ils ont un peu lent. l'intensité britannique. C'est le petit plus.
Alors on va y venir au style de jeu. Mais moi, ce que je voulais dire avec vous, peut-être Manu, c'est aussi le parcours de cette équipe-là en Ligue des Champions. Parce qu'ils sont déjà qualifiés d'office en huitième de finale. Eux, ils ne passent pas par les barrages, contrairement au Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont quatrième au niveau européen à l'issue de cette nouvelle formule. Ils sont juste derrière Liverpool, le Barça et Arsenal, mais ils ont 6 victoires en 8 matchs. Le mieux, c'est Liverpool avec 7 victoires. Et puis, ensuite, ils éliminent le Feyenoord, mais ils éliminent le Bayern. Déjà, c'est une manière spectaculaire.
Ah, les favoris.
Voilà. Et en plus, pour une finale disputée à Munich, effectivement. Et puis, le Barça. C'est vrai que vous citiez le Barça Salim, mais c'est incroyable ce que fait cette équipe. C'est ces 13 buts-là qui restent, ce match incroyable qui reste dans les mémoires, ces deux matchs aller-retour.
Ouais, je crois que cette saison, on avoue deux Inter ou un Inter bipolar. Il y a d'un côté l'Inter italien qui a perdu surtout la Serie A avec des matchs comme les matchs nuls face à la Lazio à deux matchs de la fin de la saison. Et puis, il y a
peut-être
l'Inter.
Avant d'ailleurs, où ils ont eu
oui,
un moment.
Oui, d'autres aussi, oui, mais bon, vers la fin, c'est un exemple, la Coupe aussi. Et puis, il y a l'Inter européen. L'Inter européen n'a rien à voir et c'est une équipe très solide. En fait, si tu regardes l'once titulaire, même où les joueurs, tu ne penses pas star par star, tu dis solide. Une équipe qui sait quoi faire, comment les faire. Et je crois que surtout cette saison, avec ce changement des façons de développer la compétition, je crois que la clé était vraiment être consistant et solide et éviter
de
piéger, voilà, comme c'est passé avec les Real ou avec les PSG.
Puis ils ont tout de suite pris la compétition alors que d'autres clubs ont dérivé, voilà comme le PSG.
Ils savaient comment agir. Il y a
tout
aussi un Inter qui s'est attaqué, peut-être un peu moins, mais qui s'est aussi défendre, etc. Bon, mais c'est une équipe solide, c'est une équipe consistante, et je crois que c'était la clé
de cette solide saison. Et régulière, effectivement.
Juste, malgré tout, rappelons que certes, ils finissent quatrième de cette ligue, donc de 36 équipes, donc performance évidente de la part d'Inter, mais on rappelle que c'est vraiment grâce à sa défense, parce que offensivement, sur les 8 premiers matchs de phase de ligue, ils marquent 11 buts, hein, ce qui est, en soi est très peu par rapport à d'autres équipes qui ont beaucoup marqué.
Mais ils sont arrivés comme ayant la meilleure défense.
La meilleure défense,
absolument.
C'est la première
phase, oui. Jusqu'à ce match de dingue, la meilleure défense.
C'est là où les deux choses ont changé, parce que la défense qui était si bonne en phase de ligue l'est devenue un peu moins quand même lors des matchs à élimination directe, et l'attaque qui était un peu atone lors de la phase de ligue est devenue totalement folle contre le Bayern. Le Bayern, vous marquez quand même 4 buts au Bayern, c'est pas rien s'il vous plaît, et évidemment au Barça 7 buts. Donc tout d'un coup, ça a totalement changé d'atmosphère alors que ça restait la même compétition, mais évidemment les matchs à élimination directe donnent un autre éclat à cette équipe de l'Inter.
Alors parlons de l'entraîneur, parce que c'est vrai que Simone Inzaghi, il personnifie ce groupe, il personnifie cet état d'esprit aussi. On dit que c'est un entraîneur moderne, qui a un jeu plutôt équilibré, peut-être moins à l'italienne, c'est-à-dire moins défensif. Est-ce que c'est l'homme fort de l'équipe, selon vous, Matteo? Est-ce qu'on le voit comme ça en Italie?
On dit que derrière le succès d'un homme, il y a souvent une femme. Et là, on peut dire aussi que derrière une équipe de football, c'est souvent l'entraîneur qui fait la différence. Et je crois que c'est le cas de Simone Inzaghi, qui mérite certainement un certain crédit. Tout d'abord, du point de vue du jeu, défini par certains experts comme fou, surtout quand il exprime la liberté de certains défenseurs à s'improviser milieu de terrain, mais aussi attaquant. Vous êtes tous étonnés, j'imagine, à voir Francesco Acerbi marquer un but face au Barça.
Ah oui,
c'est un style de jeu donc souvent imprévisible qui demande néanmoins de nombreux sacrifices physiques de la part des joueurs. Et rappelons que parmi les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, l'Inter est celle qui a la moyenne d'âge la plus élevée, 29,3 ans. Inzaghi ensuite a un autre atout, presque à vouloir copier Carlo Ancelotti, et cet atout est celui d'être toujours très proche de ses joueurs, même dans leurs moments difficiles. Ce n'est pas un entraîneur qui punit, mais au contraire, il préfère rassurer et donner confiance. Nous l'avons remarqué avec quelques exemples comme toujours Acerbi, qui a surmonté les conséquences liées à son geste très bête de s'en prendre de façon raciste au défenseur du Napoli, Juan Jesus, l'année passée. J'ai ce qu'il avait convaincu presque à abandonner l'activité, mais aussi avec des attaquants qui souvent soulèvent la colère des supporters. C'est le cas dans ce cas-là, et c'est le cas de l'Autrichien Marco Arnautovic, qui n'a cependant jamais été marginalisé par son technicien, même après des erreurs assez évidentes. Donc la formule d'Inzaghi est un mélange entre tactique et humanité.
C'est étonnant d'ailleurs, Chérif, parce que c'est un entraîneur, on parle d'Ancelotti. Ancelotti, il fait un peu, il a ce rôle de papa, voire de papy dans un vestiaire, mais il a 65 ans, il assoit un certain respect au-delà de son palmarès. Là, il a 49 ans, Inzaghi. Donc c'est marrant d'établir ce genre de relation avec des gens qui ont... Ouais. Alors comme Acerbi qui a 10 ans de moins que lui, ou 12 ans, c'est étonnant.
Oui et non, c'est le cas de ces entraîneurs qui n'ont pas été des grands joueurs. Parce que
lui, il a beaucoup souffert justement de l'ombre de son frère.
Dans la famille Inzaghi, c'est Pippo la star.
C'était Pippo en
Donc,
tout cas.
Donc c'est souvent ça, c'est-à-dire les joueurs un petit peu en retrait qui n'ont pas particulièrement brillé, qui savent se mettre en lumière parce que justement ils jouent à leur niveau, c'est-à-dire à un niveau humain. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont été tellement extraordinaires que quand ils deviennent entraîneurs, ils ne supportent pas à peu près des joueurs qu'on leur présente. Inzaghi, c'est pas ça. C'était un bon joueur, qui a fait une carrière honnête, mais qui a pas eu la carrière de son frère. À partir de ce moment-là, il sait se mettre au niveau de ses joueurs et il a, comment ça s'appelle, un relationnel. Et comme l'a dit très bien Matteo, il a un relationnel humain qui est très très proche. Et on le voit notamment au niveau du coaching. L'Inter, on le rappelle, c'est pas 11 joueurs, c'est 11 plus 5. C'est-à-dire, il a parlé d'Arnautovic devant, quand Thuram et Lautaro ne sont pas, il faut faire tourner, il faut faire donner un peu de la place à Arnautovic, qu'il l'accepte. C'est pareil, je l'ai déjà dit, on joue avec deux latéraux, plus deux latéraux de rechange. Mm-hmm. En défense, on a Bissek, on a Bastoni, Acerbi, on a De Vrij, mais international néerlandais. Il accepte encore de jouer un match sur deux. Pavard aussi, mais derrière tout ça, il y a du relationnel, il y a de l'humain. Comment garder son groupe? C'est 11 plus 6, Inzaghi.
Et ça se sent, ça, on a l'impression, Manu, parce qu'on se souvient du match contre le Barça. On voit Di Marco notamment, mais ils sortent les joueurs avant la fin du match et ils sont complètement fatigués.
Ils ont tout donné.
Ils donnent tout sur le terrain, mais on a l'impression qu'ils le donnent et pour l'enjeu et aussi peut-être pour leur entraîneur.
Jusqu'à la blessure, là, au tarot.
Il y a des entraîneurs qui sont prêts à mourir avec son système. Donc, comme on peut voir Luis Enrique, il y a des entraîneurs qui sont prêts à mourir avec ses joueurs. C'est les cas aussi qu'on parlait tout à l'heure de Carlo Ancelotti. C'est pour eux, ce sont les joueurs, on ne va pas tout changer parce qu'un match ne va pas, etc. Et je crois que c'est même les cas de l'Inter. Et ce sont ces entraîneurs qui n'étaient pas des joueurs énormes, qui comprennent bien qu'est-ce que c'était, c'est sacrifié pour l'équipe
comme
à l'époque. Voilà. Mais Luis Enrique, il avait un côté un peu plus star.
Palmarès international.
Quand il est parti du Real, etc.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'il joue aussi un peu sur les globales. Mais dans ces cas-là, c'est ça. C'est des entraîneurs qui comprennent bien qu'est-ce que c'était sacrifier pour l'équipe, qui comprennent bien qu'est-ce que c'est faire une erreur parce que tu n'es pas Messi. Et voilà, ça leur permet de motiver les joueurs autrement, donner une espèce de sécurité, une espèce de sécurité. Pour se développer, pour savoir qu'il y a une erreur, il n'y a rien qui se passe, ça peut continuer, qu'il y ait de l'équipe. Et après, il y a les joueurs qui sont prêts à tout donner et se sacrifier pour son entraîneur.
Ce qui donne la force sans doute au groupe, Salim.
Ce qui est intéressant, et je regardais de nouveau, je ne voulais pas faire de bêtises, la liste des coachs qui, cette saison, ont coaché en Serie A, justement, pour voir qu'on est sur une nouvelle génération justement, de coachs italiens. Alors, il y a les anciens, Ranieri, on est l'exemple évident, évidemment. Mais il y a d'autres coachs, alors Gasperini, vous allez me dire aussi, même si Gasperini, dans son jeu, lui, c'était un style de jeu très moderne, typiquement.
Absolument.
Mais on a un nouveau. Un nouvel élan avec des nouveaux coachs italiens et pas que, Fabregas aussi qui fait partie de ces jeunes à Caume et on a vu son travail, mais on a l'impression qu'Inzaghi fait partie de ces nouveaux coachs modernes qui amènent un nouvel élan, qui est en train petit à petit de balayer petit à petit ces anciens, on parle d'Ancelotti, oui je me permets de dire, certains autres qui vont partir et
qui
Inzaghi, parti comme c'est, va y aller pour longtemps.
Salim, qui a gagné hier soir? Quel entraîneur a gagné hier soir?
Oui, c'est vrai.
Enzo Maresca, on va en parler tout à l'heure.
Exactement.
Alors, une chose peut-être, Matteo, qui trouble, on va rester sur Inzaghi avant de parler du groupe, mais c'est cette histoire d'Inzaghi donné partant pratiquement dès le lendemain de la finale. Alors, il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, beaucoup d'infos ou de fausses infos, on ne sait pas. En tout cas, Simone Inzaghi, pendant la conférence de presse, eh bien, on va l'écouter, il est resté un peu flou.
Je peux simplement dire que heureusement mon club me connaît bien. Et vous les journalistes, peut-être un peu moins. J'ai reçu des demandes lorsque j'étais à la Lazio et chaque fois elles arrivent d'Italie, de l'étranger et d'Arabie Saoudite. Mais je pense que c'est vraiment fou de penser à cela en ce moment. Comme l'ont déclaré à plusieurs reprises le président Marotta, les dirigeants Ossilio et Bacin et les propriétaires d'Octri. Je le répète, dès le lendemain de la finale, nous nous assirons autour d'une table et on discutera en toute sérénité, comme nous l'avons toujours fait, dans le seul but de faire ce qui est le mieux pour l'Inter. Si à ce moment toutes les conditions sont réunies, nous avancerons en harmonie, comme cela a toujours été le cas ces dernières années.
Ça perturbe un peu l'ambiance autour de l'Inter, cette déclaration, Matteo ?
Bah oui, parce que lorsqu'il a fait cette déclaration, c'était lundi quand le club et les joueurs ont rencontré la presse, et on était tous assez étonnés parce que on se demandait mais pourquoi il a voulu répondre de cette façon et laisser ouverte une porte, parce que une chose est sûre, Inzaghi est en train de penser à cette offre monstre, parce que le club de Al Hilal lui aurait proposé 60 millions d'euros pour un contrat de 2 ans. Et donc là, vraiment, les tifosi et les clubs interistes tremblent parce que ils commencent à se demander si le technicien acceptera une offre de ce genre-là. Et en plus, à gérer l'affaire, c'est son fils, c'est le fils de Inzaghi, Tommaso, qui est un agent sportif. Donc il faudra voir. La seule chose dont on est sûr, qu'il y aura ce face-à-face entre le technicien et le dirigeant du club et les présidents, bien entendu, du club Beppe Marotta, mardi. Mardi, on saura quel sera le destin de Inzaghi.
Ok, shérif.
Simone Inzaghi devrait passer un coup de fil à Roberto Mancini pour savoir comment ça s'est passé en Arabie. Point final. À toi, Saïd.
Même si Roberto Mancini a pris un petit chèque quand même sympathique là-bas.
Tu sais comment ça s'est fini.
Certes.
À toi.
ça rappelle en tout cas José Mourinho en 2010, lorsqu'avec l'Inter, il gagne la Ligue des Champions. Et lui, vous savez, c'était même juste après le match. Il gagne la Ligue des Champions, il pleure dans les bras avec Marco Materazzi notamment. Mais José Mourinho, il part quelques heures plus tard, il part à Madrid. Peut-être que ce ne sera pas quelques heures plus tard, mais ça ne sera pas loin.
Madrid.
Oui, alors,
oui, mais il y a plus d'argent.
Ce qui intéresse, ouais. Oui, bah c'était, oui, ça, non. Ça dépendait. C'est quelques années plus tard. Ouais. Alors, ce qui intéresse aussi, donc, c'est cette équipe, ce groupe de joueurs. Vous avez rappelé la moyenne d'âge, shérif. David Finzel l'a appelé quand on préparait l'émission. Un agencement hétéroclite. On peut parler aussi d'un commando à l'italienne. Donc, c'est ces joueurs dédiés à leur entraîneur. Et il y a notamment, tous ces joueurs qui semble complice, notamment en attaque. Qu'est-ce que vous pensez de cette association, Lautaro Martinez, certes champion du monde, argentin, mais et Marcus Thuram, qui lui n'a pas encore ultra convaincu en équipe de France, shérif?
Bah, en fait, c'est la continuité de, une fois de plus, on avait parlé du 3-5-2 de Antonio Conte. C'est-à-dire, d'abord, il y a un choix. C'est pour ça que j'ai aimé cette Inter, c'est qu'il y a un choix de jouer avec 2 attaquants. Ça ne se fait quasiment plus dans le football moderne. Alors, rappelez-vous, on a eu l'association déjà Lautaro et notre ami belge
Lukaku aussi.
Voilà.
Et avant ça, Dzeko.
Donc voilà. Puis après, on avait Dzeko et tout. Donc là, on a comment ça s'appelle ? On a réitéré un peu la formule, donc on joue avec 2 attaquants, en gros un numéro 9 et quelqu'un qui tourne autour. Ça veut dire que déjà, on indique à l'adversaire que de toute façon, on va lui poser problème avec 2 attaquants qui vont jouer très 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 devant le front pour perturber l'adversaire. Et pour l'instant, on avait des doutes sur l'association Thuram-Lautaro, et c'est ça le miracle de cette saison, enfin le miracle. Non, parce que ça fait 2 saisons.
Non, on a vu des buts en plus ensemble qu'ils ont inscrits. C'est incroyable, les talonnades, les regards, voilà, les passes décisives, c'est incroyable.
Et ça marche parce qu'on a les 5 au milieu qui tournent, on a les 2 latéraux qui jouent un peu ailiers. Et comment dire ? Parce que c'est ça, une fois de plus, j'ai pas arrêté de le dire, cette équipe d'Italie, ce club italien, cette équipe italienne ne joue pas comme une équipe italienne. Mmh. Elle est différente. Oui. Elle joue avec 2 attaquants, une fois de plus, c'est dans le football moderne. Elle joue avec 2 ailiers latéraux et puis avec un numéro 10, Çalhanoğlu et tout ça. Donc voilà, l'originalité de cette Inter est là. Alors, n'oubliez pas, 2 attaquants.
Et c'est ça, le côté 2 attaquants, très simplement, on va dire que c'est sans doute même le meilleur duo du monde. Mais oui, parce qu'il y a peu d'équipes qui justement jouent avec 2 attaquants.
Ou 2 attaquants s'entendent surtout.
Absolument. Et vous avez raison.
À un moment, il y avait
encore
Griezmann et
Alvarez.
Alvarez, ouais, mais ça n'a pas duré.
Exactement.
Ça pas
et aussi une chose qui va être très importante, puisque on l'a bien dit, Thuram et Lautaro Martinez s'entendent très bien. Et ça va quasiment être la première fois cette saison que le PSG va avoir une défense centrale, donc Pacho Marquinhos a priori,
comment on fait
qui vont avoir deux attaquants en face d'eux. Parce que d'habitude, c'est un ou trois. Pour ça, quand il y a mine de trois, il y a pu avoir le cas cette saison.
C'est trois, normalement, il y a deux qui sont un peu
sur les côtés, voilà, absolument. Les côtés, alors que là, vous allez, là les, la défense centrale parisienne va avoir deux attaquants en face d'eux. Ben, c'est pas la même manière de bosser. Et c'est là où Luis Enrique, on sait que c'est un entraîneur hors pair, ben, va devoir trouver la solution et faire comprendre à Pacho et Marquinhos, attention, on défend pas que de la même manière que
les trois, quatre défenseurs. Sur les papiers, après, normalement, c'est trois qui restent derrière.
Exactement.
Et il y a Hakimi qui monte. Ouais.
Alors, on aura un joueur symbole, des joueurs symboles aussi dans ces équipes, mais il y en a deux qui attirent les regards et un dans l'effectif des Nerazzurri. C'est le gardien, Yann Sommer, bien sûr, qui aura de l'autre côté du terrain un autre grand gardien qui, lui, est italien, un certain Donnarumma. Écoutons, Yann Sommer, c'était à votre micro lors de cette journée, hein, lundi, Matteo. Yann Sommer qui répond justement à cette question autour de l'image de Donnarumma.
Fantastique arrêt de Yann Sommer. Il a privé le Barça d'un but.
Donnarumma. Jouer contre Donnarumma, c'est, ouais, c'est, je me réjouis parce que c'est un grand gardien. Je le connais un peu et puis ça me plaît beaucoup de regarder aussi dans les dernières années qu'est-ce qu'il a fait. Alors c'est un match intéressant et je me réjouis beaucoup.
Sommer fait barrage.
Yann Sommer, c'est vrai qu'on l'a vu en championnat en Angleterre, en Allemagne. On l'a vu aussi très fort face à la France, une certaine fois, un certain Euro où on a été éliminé en quart de finale. Ouais. Et là, on a l'impression, il avait remplacé Onana au pied levé. Et on a l'impression que c'est l'homme qu'il faut au bon endroit.
Oui, et surtout l'homme qui a progressé petit à petit. Parce que c'est quelqu'un, au final, Yann Sommer, on ne s'est jamais dit « Ah, c'est le meilleur gardien du monde » ou « C'est l'un des meilleurs gardiens ». Qu'il soit.
Il gagne ses galons au fur et à mesure.
C'est ça, mais on s'est toujours dit, c'est un bon gardien qui est là, Yann Sommer, qui va pouvoir faire le travail de manière correcte, etc. Et c'est vrai qu'à l'Inter, lorsqu'il remplace André Onana, vous l'avez bien dit, on se dit, bon, à voir ce que ça va donner. Mais force est de constater, si l'Inter en est là et a réussi de si bons parcours en championnat, c'est parce que Yann Sommer a fait un excellent travail. Franchement, Yann Sommer, c'est l'énorme surprise. Et quand vous évoquez Donnarumma, au final, on a deux gardiens, c'est pour ça qu'on va avoir un duel phénoménal. On a deux gardiens qui sont au pic de leur forme au même moment. C'est aussi ça qui est phénoménal.
Matteo, pour finir, est-ce que l'Inter, avec son palmarès récent, et alors que le Milan vient de vivre quand même l'une de ses pires saisons, est-ce que l'Inter primera désormais dans le cœur et gagne des supporters à Milan ou en Italie?
Bien sûr, Matteo, évidemment.
Il faut pas rigoler, hein. Désolé, mais sur certains sujets, il faut pas rigoler. Certainement pas, c'est ma réponse aussi, parce que dans le football, en général, on renforce le soutien à son équipe quand elle va mal et pas seulement quand elle gagne. Ce serait trop facile, sinon. Un vrai tifoso, on le voit dans les moments difficiles. Et surtout, on change pas d'équipe parce que celle-ci remporte une Ligue des Champions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce serait vraiment de la folie la plus totale.
Matteo, et ça serait peut-être l'occasion pour Donnarumma de redorer son blason du côté des milanistes.
Bah oui, il y a eu un communiqué de la part des tifosi de l'AC Milan. Je vous le dis qu'il y avait écrit dedans. Si tu arrêtes tous les tirs de Lautaro, Thuram, tu seras plus notre ennemi. Tu seras de nouveau notre ami. Vous voyez, il suffit d'un match avec le rival d'une vie pour changer les esprits chez les supporters.
Eh oui, parce que rappelons-le, Donnarumma, il était parti très mal avec les supporters
de Milan.
C'est
la grande chance pour Gigio Donnarumma de retrouver au moins le respect de la part des tifosi rossoneri.
Il avait osé quitter le Milan pour le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en direct avec nous. Et alors, bonne chance aux interistes et au club italien, on va dire.
Merci beaucoup et bonne chance à tous aussi au Paris Saint-Germain. Je suis comme Buffon.
Et Matteo va mettre son maillot d'Inter, c'est ça,
gagne,
j'ai compris. Hein,
que
c'est
le
ça,
meilleur
hein.
gagne.
Exactement, Matteo, que le meilleur gagne.
Que le meilleur pari gagne.
Et que les meilleurs soient qui?
On ne répond pas à ces questions. On va faire un intermède, un peu de musique avec Jenny Pape au robot. C'est de Hildon.
Jenny Pape est bon, muito bon, bon, bon. Jenny Pape est bon, muito bon.
vivo apaixonado. Meu sangue latino me leva pro seu lado. Seu fogo é quente, queima a mão da gente. Pimenta malagueta, na voz de vulcão. Mais alto que o Kilimanjaro. Sou como um foguete perdido no espaço. Genipapo é bom, muito bom, bom, bom. Genipapo é bom, muito bom, bom, bom. Genipapo é bom, 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 bom. Genipapo é bom, 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 bom. Genipapo é bom.
Brésilien Hildon sur Génie Papo, robot, c'est bien sûr à retrouver sur la playlist de RFI. Des Blues de retour sur le devant de la scène. Alors bon, par la petite porte, parce que c'est quand même la petite Coupe d'Europe. Hein. C'est celle qu'on surnomme la C4. La Ligue Conférence. Bon, ça se discute. La Ligue Conférence, en tout cas, a été remportée hier. C'était face à Séville, vous venez de l'entendre. On a eu des beaux buts, hein, notamment de Jason... Betis Séville face à Jason Sancho, un très beau but, et puis Nicolas Jackson, le Sénégalais. Écoutons l'entraîneur italien donc de ces vainqueurs, Enzo Maresca.
Hopefully can be a starting point.
Nous espérons bien sûr que ce succès sera le point de départ pour construire une mentalité de vainqueur. Il faut gagner les matchs, il faut gagner les compétitions. Ce trophée remporté nous fera certainement progresser. Mais je suis sur le plan national aussi très fier du parcours que nous avons accompli en Première Ligue, qui est pour moi la compétition la plus difficile au monde. Là, il faut être constant sur 38 matchs. C'est pourquoi, après le match face à Nottingham Forest, je me suis un petit peu emporté. Mais la raison en était simple. Dans une saison à 38 matchs, il faut être régulier. Maintenant, avoir l'équipe la plus jeune de toute la Première Ligue, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Alors, ce qui est amusant, c'est de regarder l'affiche que produit le club avec les winners. Parce qu'on regardait avec David Finzel, il y a 60 joueurs qui sont sur l'affiche à peu près. Alors qu'il n'y en avait évidemment que 11 titulaires au départ hier. Une équipe très jeune, mais une équipe aussi qui revient de loin, Salim, peut-on dire ?
Oui, mais disons que la révolution qui a été mise en place la saison dernière avec... l'arrivée du nouveau propriétaire, il y a deux ans déjà, avec tous ces joueurs, cette politique-là, on se disait, mais
Moscou.
Vous avez viré Tuchel là parce qu'on aurait dit qu'il faisait trop sur la photo, lui. Ah,
notamment, et puis surtout avec tous ces joueurs qui étaient payés à des sommes astronomiques, avec pour certains, on se posait beaucoup de questions. Alors oui, miser sur l'avenir, parce que c'était ça l'objectif de Chelsea, miser sur l'avenir en, attirant de jeunes joueurs, mais on se posait beaucoup de questions. On s'en pose toujours, hein, pour vous dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, le problème de Chelsea...
Continue.
Sans doute un peu moins d'ailleurs, c'est sûr, ouais. Mais on s'en pose encore, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un effectif qui reste pléthorique à Chelsea. Mm-hmm. Il va falloir encore élaguer encore, mais on se dit qu'on commence déjà à dessiner un 11 type, petit à petit.
Oui.
Et c'est un fait, et c'est ça. Et
je te suis.
Ce qui n'existait pas avant avec Chelsea, voilà. Où avant chaque match, je disais mais qui va vraiment jouer, qui va pas jouer. Voilà. Là, on sait désormais quasiment le 11 à chaque fois.
Voilà.
Donc on se dit que il y a un 11 qui se dégage, il y a un banc qui commence à se dégager. Mais bon, 11 plus banc, ça fait déjà beaucoup de joueurs. Donc il y a d'autres joueurs qu'il va falloir petit à petit mettre de côté. Je pense à Nkunku notamment, qui fait plus partie des plans de Maresca, par exemple.
Apparemment. Deux clubs anglais qui gagnent deux des coupes européennes cette saison sur les trois. Alors les trois, par contre, ils sont pas du tout présents même en demi-finale, hein, si je me trompe. Ah bah si, avec Arsenal, pardon. Ouais. Mais qui ont vraiment perdu en représentation.
Villa, Ancar, Liverpool.
Est-ce qu'on a une suprématie malgré tout des clubs anglais? Parce que l'année prochaine, on aura sept hein, en Ligue des Champions.
Six.
Voilà.
Si vous voulez, on peut en avoir un septième. Hein.
Non, je crois que...
C'est incroyable, cet esprit de compétition. Moi, j'ai grandi quand j'étais adolescent avec les sept victoires des clubs anglais dans les années 70-80. Au bout d'un moment, enfin, au départ, on ne comprend pas bien. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus et tout.
C'était la grande époque Liverpool, notamment.
Ouais, Liverpool, Nottingham Forest.
Aston Villa aussi.
Aston Villa, non mais... voilà, comment ça s'appelle. Pendant longtemps, il n'y avait pas de club londonien qui gagnait des coupes d'Europe, la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Puis Chelsea a fini par la gagner, ils l'ont gagné deux fois, puis on s'est dit, bah en fait, non, il n'y a pas de malédiction londonienne. Quand les clubs anglais veulent gagner, ils gagnent. Et là, comme on dirait sur ces 15 dernières années, Chelsea, c'est deux Ligues des Champions, deux Europa League, et la dernière qui leur manquait. Aujourd'hui, le seul club au monde qui a gagné les quatre compétitions, c'est un club anglais. Ce n'est pas un hasard, ces gens-là sont des compétiteurs. On peut retrouver, alors moi, mon explication, si on retrouve ça, comment ça s'appelle, dans l'esprit militaire anglais, ces gens-là sont des conquérants. Quand ils s'alignent, si vous voulez bien comprendre, regardez pourquoi l'Angleterre, c'est la seule équipe de l'hémisphère nord qui a gagné la Coupe du Monde de rugby. C'est parce qu'il y a les vertus de combat et de compétition que les Français n'ont jamais eues.
Alors, donc, ils l'ont pas vraiment dans l'équipe nationale
de foot. Oui, mais ils ont gagné la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Est-ce que ça veut dire que les clubs espagnols sont moins en vue, moins puissants, moins importants? Bon, le Betis Séville, c'était pas le
fort quand même. J'y vais très clair, on parle des dominations en Europe.
Hier, ils ont perdu deuxième mi-temps, quoi. Mais, ils encaissent 4 buts.
Mais je me suis amusé à regarder les budgets. Et en fait, Chelsea et Betis sont les cinquièmes budgets de chaque championnat. Betis, c'est 185 millions d'euros. Chelsea, c'est 610, donc trois fois plus. Et puis, Manchester United et Tottenham, qui ont joué l'autre finale, on parlait de la domination. 780 665 millions. Il faut voir les budgets des équipes qui jouent cette compétition.
Totalement.
La domination, tout la montre en Ligue des Champions. C'était notamment Manchester City
d'accord.
Les dernières. Il faut que comparer les budgets. Excusez-moi, mais jouer contre Djurgården Garden, je ne vais pas dire que je pourrais
pendant
les faire aussi, mais
pendant 50 ans, les clubs anglais, ils avaient les mêmes budgets que le reste de l'Europe.
Laisse-moi finir. Je comparais les 5-6 budgets, le meilleur budget de l'Angleterre et de l'Espagne, et il n'y a rien à voir. Et même Arsenal, qui est les 5e, 6e, comparé avec Real Sociedad, c'est encore trois fois les budgets, donc tu ne peux pas comparer. Après, en Espagne, on a un problème, et c'est que c'était 12e ou un 12e échelon qu'on avait. Atlético, je vais les mettre sur les premières, mais avec Sevilla et Valence, etc., ils ont des problèmes économiques. Sevilla, ils sont indés des 300 millions. Valence, ils ont un budget de 100 millions. Une équipe qui a des années à jouer la finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, ils ont des problèmes. Ils se font acheter par des riches, par des fonds d'investissement qui ne vont pas investir dans l'équipe, mais qui plutôt vont vouloir tirer des bénéfices. Et du coup, cet 12e niveau, 12e échelon, est en train d'être détruit en Espagne.
Mais malgré tout, en tout cas, sur Chelsea qui gagne la Conference League, on va être très honnête. Quand on a vu au tout début de la compétition toutes les équipes qui participaient à cette Conference League, on se disait si Chelsea il a gagné pas exactement. Ou à minima aller en finale, ça aurait été un échec cuisant ouais, pour
voilà,
cette équipe
c'est une obligation
vu
de la
l'adversité. Ah si
mais pour moi c'est finir quatrième en Premier League voilà. pas gagner
gagner la Conférence League c'était une évidence et en plus ils ont réussi à faire
une question.
Ah non, on peut plus. D'accord. On peut plus, chérie. On
gardez la prochaine fois.
On est désolé.
Atlético Manchester United. C'est pas une question de budget.
C'est vrai.
On y reviendra.
Bilbao, Atlético c'est Bilbao.
C'est
pardon.
Demain, c'est le c'est Café vrai. Des Sports. N'oubliez pas, c'est vendredi, c'est l'heure des cartons. Merci à tous et à demain. À demain.